Ma vraie devise est très simple. Vous devez avoir une jambe dans le système, sinon vous êtes marginalisé, vous passez à côté d'un certain nombre de choses. Vous devez avoir une jambe hors du système, sinon vous êtes condamné à être bouffé par le système, et même inconsciemment, comme beaucoup de gens, à être complètement dans les valeurs du système. Et enfin, si je peux me permettre l'expression un peu vulgaire, vos couronnes sur le fil du rasoir.
Les couilles sur le fil du rasoir, c'est pas très confortable comme perspective.
Non, mais je crois que la position inconfortable vous permet de penser encore mieux.
Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. En face de moi aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir André Bercoff, un jeune homme de, puis-je le dire, roulement de tambour.
Vous pouvez.
83 ans, une légende aussi du PAF, du paysage audiovisuel français. Vous commencez votre carrière de journaliste au Liban. Vous avez travaillé à L'Express, à Jeune Afrique, chez François, et aussi collaboré à Libération, au Monde, au Nouvel Observateur, et j'en passe. Vous avez animé à la radio comme à la télévision. Vous êtes en ce moment au microphone de Sud Radio depuis quelques années, où vous présentez Bercoff dans tous ses états, vous-même dans tous vos états. À votre actif aussi, une cinquantaine de livres, parfois écrits sous pseudo, Philippe de Comines, Philippe Murat. Vous sévissez toujours sur les réseaux sociaux où votre plume est, ma foi, bien aiguisée. Vous avez encore, sinon toujours, le sens de la formule. J'ai retenu, pour ma part, parce qu'on se préoccupe de ces choses ici, la liberté d'expression, cette empêcheuse de lobotomiser en rond. Vous avez aussi le don d'étrier ceux qui vous embêtent, comme notre premier ministre, Trudeau Q. C'est comme ça que vous l'appelez souvent. Vous faites le sourire du sphinx. Oui, en effet. À l'occasion, sur les réseaux, peut-être que votre pensée vous dépasse un peu. Ça vous a été déjà reproché. La solution finale du problème des vaccins, aviez-vous, ou des vaccinés, aviez-vous écrit. Évidemment, la solution finale dans les circonstances, c'était peut-être dépasser certaines bornes. André, oui. Bercoff, bonjour.
Oui. Bonjour, bonjour. Mais vous savez, de temps en temps, la provocation fait du bien. On sait très bien dans quel sens je disais cela, et je l'assume tout à fait. Je vois tellement de gens exploiter la réduction ad Hitlerum et se servir de Munich, de la guerre d'Espagne et tout ça pour faire passer leurs petites marchandises politiciennes, que de temps en temps, il est bon, comme disait Salvador Dali, de donner à la société un coup de pied à la jambe droite.
Ça fait sinon bien. À la jambe gauche.
Sinon à la jambe gauche, absolument.
Ce que vous aimez faire?
Ce que j'aime bien faire, parce que vous savez, c'est pas provoquer pour provoquer. C'est simplement provoquer pour exercice. Je suis pas un méchant, moi. Moi, j'aime pas... par exemple, je parle jamais ou pratiquement de la vie privée. Je déteste... cet exhibitionnisme de la vie privée ou qu'on attaque quelqu'un sur sa vie privée. Est-ce qu'il fait bien le boulot? Est-ce qu'il se comporte est-ce qu'il essaie de se comporter? Mais non, s'il se comporte comme un salaud, d'accord, on le dénonce. Mais moi, c'est pas là-dessus que j'attaque. Moi, ce qui me fait bondir, c'est l'hypocrisie. C'est les deux poids deux mesures. C'est l'indignation à géométrie variable. Voilà.
Qui est beaucoup pratiquée aujourd'hui.
Oh, qui est de plus en plus pratiquée par ces gens qui, parce qu'ils ne font rien, estiment qu'ils ne font rien, leur permet de donner des leçons à tout le monde. Et je suis absolument frappé. On pourrait passer trois heures à donner des exemples. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas une cohérence, voyez, s'il n'y a pas quelque chose entre le dire et le faire, s'il n'y a pas quelque chose entre la paille et la poutre, si vous parlez de vous-même en disant « Attendez, faites ce que je dis et faites surtout pas ce que je fais », ça ne va plus. Comment voulez-vous que la confiance ne s'érode pas? Comment voulez-vous que les gens aujourd'hui, et vous le savez comme moi, Stéphane, n'ont plus confiance dans un certain nombre de médias, dans un certain nombre de paroles politiques ou autres, parce que justement, ils se sentent grugés?
Ça se reconstruit, la confiance?
Ça se reconstruit durement. Elle se perd beaucoup plus facilement qu'elle se reconstruit. Et je crois que le pire, c'est cette espèce de situation de ceux, vous savez, qui lèchent goulûment le crocodile en espérant qu'il les mangera le dernier. Mmh. Et c'est un peu
C'est toujours un mauvais pari.
C'est un mauvais pari, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Ils pensent que ça peut durer encore longtemps. Effectivement, ça peut durer quelques années. Je ne crois pas que ce soit la solution.
Sur la question de la provocation, aujourd'hui, il suffit de bien peu de choses pour donner l'impression que nous avons provoqué. Et moi, ça me donne plutôt la certitude qu'on a perdu le sens des proportions.
On a perdu surtout le sens de la liberté. Je pense que ça va beaucoup plus loin pour moi. Pour moi, la liberté ne se divise pas. Je suis très frappé, on dit « je suis pour la liberté d'expression, mais à condition que, etc. » Formidable. Vous êtes pour la liberté, vous n'êtes pas pour la liberté. Ah non, je suis pour la liberté. Alors, il ne dirait pas sur la liberté surveillée. Il n'y a pas la liberté étiquetée. Qu'est-ce que ça veut dire? La liberté, c'est la liberté, y compris celui que vous détestez ou dont vous détestez les opinions. Alors évidemment, si c'est appel à la haine, si c'est appel au racisme, si c'est appel à vraiment tuer son prochain, qui va être pour? Mais il y a des lois pour ça, il y a des sanctions pour ça. Eh bien, pratiquez la loi. Moi, je ne suis pas du tout là-dessus. Mais je trouve extraordinaire, vous avez vu aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais en France, il y a une autocensure aujourd'hui, pas généralisée heureusement, mais qui existe. Les gens se disent, oui, mais oulala, si je vais dire ça, que va-t-il se passer pour ma carrière? Ou alors, je vais être peut-être exclu de tel ou tel réseau, de tel ou tel média, de tel ou tel canal. Et résultat des courses, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une espèce d'asphyxie généralisée. Et je dirais que la liberté, vous savez, la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Je crois que vraiment, il faut faire très attention à ça.
Mais c'est la tentation, d'ailleurs, de ne pas abuser de sa liberté, sinon même d'y renoncer.
Tout à fait. Et c'est la tentation, pour moi, des taupes ou des cloportes en disant, écoutez, moi, oui, mais ça ne m'intéresse pas, je reste dans mon coin. Et il faut faire attention, pas de vague. Vous savez, c'est le pas de vague. Mmh. Et le pas de vague, eh ben, c'est l'antichambre de la mort ou effectivement de l'asphyxie généralisée.
Et peut-être de la mort généralisée, pas la sienne seule, mais celle d'une collectivité qui renonce à dire ce qu'elle pense. Vous avez écrit sur les réseaux sociaux qu'ils ont détruit pour le meilleur et le moins bon le monopole de la vérité révélée d'en haut et répercutée avec plus ou moins de conviction vers le bon peuple. Donc, vous n'êtes absolument pas convaincu que tous les maux d'aujourd'hui sont liés aux réseaux sociaux. Et surtout, vous vous souvenez d'une époque pas si lointaine où, d'une autre manière, on savait parler de haut en bas.
Bien sûr. Et puis, mais vous savez, alors ça, c'est un de mes sujets de plaisanterie qui me fait encore plus ricaner, qui dit, ah là là, le pire, c'est les réseaux sociaux. J'adore. Avant ça, la presse et les médias étaient d'une objectivité, d'une honnêteté, d'une sincérité. Dites-moi, ces braves gens-là, et vous n'étiez pas nés, moi non plus, ils n'ont jamais entendu parler du bourrage de crâne? Ils ont oublié ce que c'était que la presse du temps de Balzac, où on en achetait des articles. Ils ont oublié de ce que c'était quand on leur racontait à 14-18 que les Allemands coupaient la main des petits-enfants pour les manger avec la soupe. Mais enfin, et on pourrait remonter à beaucoup plus loin. Ce qui est extraordinaire, vous savez, c'est lié, ça, Stéphane, à l'ignorance. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ignorance crasse, pas partout, encore une fois, je déteste généraliser, de l'histoire. Penchez-vous sur l'histoire. Les réseaux sociaux, c'est le meilleur et le pire, mais moi, je peux vous dire, pour mon émission, par exemple, pour chercher mes sujets, je vais énormément sur les réseaux sociaux. Non pas pour faire moderne ou Jones, c'est simplement qu'il y a la possibilité de choisir, d'avoir... Moi, je sais que... J'ai dit, mais tiens, personne n'a parlé de ça dans la presse. Personne n'a parlé de ça à la télévision. Et on sait pourquoi. Vous savez, je dis toujours... Pourquoi, c'est très simple. Je dis toujours, et je dis ça à vos auditeurs et à vos spectateurs... Il y a journalistes et journalistes. Il y a des journalistes qui font formidablement leur boulot, d'autres qui le font moins, d'autres qui endossent la tablier du zélé serviteur. Et regardez, c'est très simple. Quand ils passent à la télévision, regardez le cou. Si vous voyez des rougeurs, c'est qu'il vient d'enlever le collier et la laisse. Voilà. Et donc, qu'on ne me raconte pas, c'est pas nouveau, ça existe depuis des siècles. On voit les gens qui font leur boulot, mais ça vaut pour les journalistes dans tous les autres métiers, avec une certaine sincérité, en n'ayant pas peur de dire les choses et d'avoir question à tout. Je radote là-dessus, je dis réponse à tout. Personne là, question à tout, ça me paraît indispensable.
Oui, c'est le béaba de notre métier que d'être capable de pouvoir poser des questions. Elles peuvent être même mauvaises.
Absolument.
Seules les réponses comptent.
Tout à fait. Mais la question aussi, ça joue.
Oui, c'est certain que les mauvaises questions sont moins utiles que les bonnes. Au sujet de cette idée de ne pas faire Jones, comme vous le disiez tout à l'heure, ça ne vous guette pas, quoique vous avez encore quelque chose, ma foi, de léger, de très jeune. Et c'est un compliment que vous pouvez prendre, parce que je le pense. Il y a un avantage à avoir 83 ans dans ce métier?
Je crois que l'avantage, en tout cas, d'avoir l'âge que j'ai, c'est que, franchement, on s'en fout. Je veux dire par là que la prise de risque, on n'est pas des héros, on va pas jouer les Jean Moulin. Parce qu'on me dit, ah, les résistants, c'est pas une question de résistance. Les résistants 40-44, c'était autre chose. Là, la Gestapo ne vous attend pas à la sortie du studio. Faut quand même pas exagérer, il faut raison garder et proportion garder. Mais c'est vrai que je n'ai pas de souci de carrière. D'ailleurs, j'en ai pas beaucoup eu, pour être tout à fait franc avec vous. Je n'ai pas de souci. J'ai ce que Baudelaire appelait le plaisir aristocratique de déplaire, mais aussi de plaire. Voilà, il y a des gens qui suivent et vraiment, je reçois des encouragements qui me font chaud au cœur. D'autres qui n'aiment pas, et ben c'est très bien. Chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, réagit comme il veut. Mais je n'ai plus, si vous, j'ai pas la sensation de me dire attention, il faut que je fasse attention à telle ou telle chose. Voilà.
Vous cultivez davantage le plaisir aristocratique de déplaire que celui de plaire.
Je ne sais pas, parce que honnêtement, et je veux pas depuis la radio, je sens. C'est pas la notoriété, ça je l'ai depuis longtemps, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est que les gens me remercient, pas par ce que je dis simplement, mais par mes invités. Vous savez, j'ai tendance à inviter les gens qui sont un peu ostracisés dans les médias mainstream, ce qu'on appelle
nous
les mainstream.
Partageons cette mauvaise habitude.
Voilà, et ça me paraît une mauvaise habitude très saine. C'est-à-dire, alors quand on me dit, par exemple, on me dit, enfin, Berkov, oui, dans votre émission, il n'y a pas la contradiction et le débat. Mais je dis, c'est mon émission qui est la contradiction. Quand j'invite des gens, des hommes et des femmes, qui sont ostracisés, qui sont boycottés, qui sont interdits d'antenne, dans les trois quarts des médias, bah, écoutez, ils ont le droit de parler. Et je ne les invite pas parce qu'ils sont ostracisés. Je les invite parce qu'ils ont de la compétence. Quand Didier Raoult, on me dit, ah, mais c'est un charlatan, Didier Raoult, c'est quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Je dis, écoutez, moi je ne suis ni médecin, ni épidémiologue, je n'y connais rien. Je regarde son CV. Je regarde ce qu'il a été comme épidémiologiste. Je regarde dans le monde entier le nombre d'études qu'il a publiées. Bon. C'est quand même quelqu'un qu'on peut écouter. Ça ne veut pas dire que je le croirais comme l'Évangile. Ça veut dire simplement qu'il a le droit, au moins et plus que ça, à la parole et à écouter ce qu'il a à dire.
Vous parliez tout à l'heure de notoriété que vous avez depuis longtemps.
Oui.
C'est utile?
Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est un fait. Je sais pas, ni je m'en enorgueillis, ni je m'en réjouis. Bon, c'est bien d'avoir des gens qui vous connaissent. Après, qu'est-ce que vous en faites? C'est toujours pareil. Est-ce que vos notoriétés, si c'est uniquement pour dire j'ai de la notoriété, oui, vous savez, ça me rappelle quelqu'un qui disait, c'était un dialogue de Prévert entre un homme et une femme, entre son père et sa mère. Et il disait, je me suivais moi-même, disait mon père, et il riait. Joli travail, disait ma mère, et elle pleurait. Donc, faut surtout pas se prendre au sérieux. Il faut surtout avoir de la distance d'abord envers soi-même, de la distance critique et envers les autres. Et voilà, et puis vous suivez votre chemin, comprenne qui pourra, approuve qui voudra.
Vous prenez cette distance, vous la cultivez par rapport à vous-même ou face à vous-même?
Très sincèrement, oui. Oui, ça me paraît indispensable.
Il y a des gens qui peuvent vous dire, Berkov, il serait temps que tu surveilles ton angle mort.
Oui, bah écoutez, j'écoute, et s'ils ont raison, et pourquoi pas? Je veux dire, il m'est arrivé de me tromper, et je dis, oui, je me suis trompé, là. Ça me paraît la moindre des choses.
Dans le rôle qui est le vôtre à Sud Radio, vous vous voyez toujours comme un journaliste ou comme un capteur d'alerte du temps, peut-être?
Oui, peut-être pas lanceur d'alerte, oui, je crois capteur, oui, haut-parleur au sens littéral du terme, haut. Parleur, peut-être aussi empêcheur de penser en rond. Peut-être aussi, effectivement, si vous voulez, ce que j'entends des personnes, et ils sont quand même nombreux à écouter ou à voir, c'est qu'ils disent, écoutez, avec vous au moins, il y a une bouffée d'oxygène, vous nous sortez la tête hors de l'eau. Pourquoi ? Pas seulement pour vous. C'est parce que vous nous donnez à penser, vous ne nous prenez pas pour des imbéciles, et vous nous donnez à penser et à écouter des gens qui, effectivement, nous apportent une autre information, une autre manière de voir les choses, un autre angle. Voilà, pour moi, si j'arrive à ça, ben, j'en suis plutôt heureux.
Et parmi ces gens qui vous écoutent aujourd'hui, plutôt que de dire qu'ils seraient à droite ou à gauche, vous préférez un autre clivage que j'aime bien, c'est-à-dire celui qui met d'un côté les mondialistes et de l'autre les identitaires, c'est-à-dire les laissés pour compte de la mondialisation et qui sont montrer du doigt beaucoup. On aime dire de ces gens que c'est peut-être les ploucs d'aujourd'hui, les déplorables aux États-Unis. Comment se fait-il qu'on ait abandonné ou renoncé à tant de gens?
Parce que c'est tellement plus confortable de les classer, de les mettre au magasin des accessoires et de leur poser des étiquettes. Vous savez, les passionnés du vide neuronal aiment bien le sous-vide qu'ils qualifient, comme ça ils sont contents. Il y a trois choses là. C'est tellement plus facile de dire « Ah mais moi je ne vais pas discuter avec vous parce que vous, vous êtes de gauche, ou vous êtes de droite, ou vous êtes extrême, tout ça. Non, 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 moi je n'ai pas à vous parler. » Commencez à dire et à l'écouter. Après, vous ferez votre jugement et dire « Oui, effectivement, vous êtes extrémiste, j'ai pas envie de parler avec vous. » Mais au départ, considérer quelqu'un, encore une fois, selon les préjugés que vous avez sur lui, me paraît vraiment la facilité, la paresse intellectuelle et je dirais la malhonnêteté intellectuelle la plus totale. Et j'ajouterai cette phrase de Courteline qui m'a toujours frappé, que je connais depuis très longtemps, passer pour un idiot aux yeux de l'imbécile est une volupté de fin gourmet. Voilà.
Et je veux dire présent. Je suis prêt à être dans cette position. Vous avez assez judicieusement, je pense, observé que le monde d'aujourd'hui pourrait peut-être ressembler à celui des mois, semaines ou années qui précèdent la Révolution. Et il y aurait aujourd'hui une noblesse, il y aurait un clergé incarné par, évidemment, des gens qui ne sont plus nécessairement à porter la robe ou l'épée. Sûr. Mais quand même, vous faites des parallèles. Le clergé, il serait médiatico-politique aujourd'hui. La noblesse, elle serait financiaro-administrative avec toujours un tiers-État. Vous voulez développer, parce que je trouve intéressant cette
Alors,
triade.
Dans les premiers temps, clergé et noblesse, je n'ai pas besoin de développer, vous le savez comme moi, Stéphane. Le clergé est politico-médiatique, on voit très bien, c'est-à-dire c'est l'entre-soi. Hein. On se congratule, on se coagule, on se connaît, et puis on s'échange.
Mais c'est votre monde en même temps. Ce que vous décrivez, c'est celui du monde dans lequel vous avez évolué pendant 60 ans. Vous avez vos amis, vous avez votre vie.
Je les connais bien, mais je vais vous dire, mais j'ai toujours, depuis l'âge de 20 ans, ma vraie devise est très simple. Vous devez avoir une jambe dans le système, sinon vous êtes marginalisé, vous passez à côté d'un certain nombre de choses. Vous devez avoir une jambe hors du système. Sinon, vous êtes condamné à être bouffé par le système et même inconsciemment, comme beaucoup de gens, à être complètement dans les valeurs du système. Et enfin, si je peux me permettre l'expression un peu vulgaire, vos coronets sur le fil du rasoir.
Les couilles sur le fil du rasoir, c'est pas très confortable comme perspective.
Non, mais je crois que la position inconfortable vous permet de penser encore mieux. Je pense que le danger, vous savez, la température, la flamme qui n'est pas loin, Michel Léris, un grand écrivain français, disait « Il faut vivre avec une corne de taureau près de la hanche ». Et ça me paraît très bien, parce que la torpeur engendrée par le confort endort les plus intelligents, quelquefois.
Et les plus éveillés. Vous vous êtes auto-bousculé pour éviter la torpeur?
Je n'ai pas eu à m'auto-bousculer, parce que quand j'étais dans une rédaction, vous avez cité un certain nombre, il y en a eu d'autres, quand j'étais dans une maison d'édition, au bout d'un moment, la routine s'installait. Quand la routine s'installait, je m'en vais. Je m'en vais vraiment, je dis, mais enfin, les gens me disent, mais tu es fou, tu es très bien là, tu gagnes ta vie, tu gagnes bien ta vie, etc. Je dis, oui, d'accord, je gagne bien ma vie, je vais me débrouiller ailleurs. Et je vous assure, le fait de bouger est quelque chose de très revigorant, je trouve.
Le mouvement.
Le mouvement. Alors, il ne s'agit pas, le mouvement, ce n'est pas la fuite en avant, ce n'est pas le mouvement n'importe quoi, n'importe qui, non. C'est de se dire, écoutez, là j'ai fait un chemin, c'est très bien. Et d'ailleurs, vraiment, j'ai gardé un très bon souvenir des trois quarts des choses que j'ai faites, enfin des lieux où j'ai exercé. Mais après, à un moment donné, c'est fini, ce sont les saisons. Et bien, on change de saison.
Revenons donc, on était au clergé.
Oui.
Médiatico-politique, alors, l'entre-soi.
Voilà, l'entre-soi, c'est-à-dire l'entre-soi médiatico-politique. La parole, la doxa, donc la parole dominante, il faut écouter la parole dominante. Pourquoi? Alors là, c'est intéressant. Parce que le clergé a, évidemment, selon l'indique, c'est le camp du bien. C'est le camp de la vérité révélée. Donc, moi, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc, je vous enseigne le bien et je vous enseigne la réalité.
Mais c'est nouveau
Non, bien sûr que c'est pas nouveau. Simplement, la technologie, la capillarité a démultiplié cela. Oh, c'était du temps de Diogène, hein, et d'autres. C'est pas absolument pas nouveau. Simplement, voilà. Vous savez, c'est le cerveau primitif, hein, c'est là. Donc, la réalité, je la connais. Et ce qui compte, cher peuple, cher gueux, c'est ma perception de la réalité. Je vais vous la donner. Et si on vous dit que c'est pas la bonne, attention, ce sont des ennemis de l'État, ou des factieux, ou des extrêmes, ou ceci, cela. Vous connaissez la panoplie des adjectifs, on la connaît.
À vos risques et périls, si vous ne voyez pas ce que je vous décris comme étant le réel.
Voilà, exactement. Vous risquez de passer à côté de certains avantages. Alors, on vous le dit gentiment. Nous sommes passés, soyons clairs, Stéphane Bureau, nous sommes passés le XXe siècle, qui était celui de Hitler, de Pol Pot, de Staline, de Mussolini et autres. C'était quand même un temps déraisonnable, comme disait le poète.
Mais on avait mis les morts à table en grand nombre.
Bravo. Et c'était le temps du gravier. Aujourd'hui, XXIe siècle, c'est le temps de la vaseline. C'est-à-dire, ne craignez rien, ça va bien se passer.
Sans douleur.
Voilà. On va vous faire ce qu'il faut faire, mais sans douleur. Ah, on est complètement dedans aujourd'hui. Écoutez, les clercs de Davos, le clergé de Microsoft ou autre, de Bill, de notre cher Bill. Eh bien, c'est ça. Non, mais c'est pour votre bien. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, avant, ils disaient, ouais, vous êtes raciste, ou vous êtes un salaud, vous êtes un sous-homme, vous êtes une race inférieure. Non, non, non. C'est des mots qu'on ne va plus employer. Non, 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 c'est fini. Tout le monde est bien inclusif. Nous sommes inclusifs. Mais poussons l'inclusivité jusqu'au bout. Vous êtes 7 milliards de gens dont on va s'occuper. Mais ne nous emmerdez pas. Ne faites pas des remarques inutiles. Nous avons besoin de 20% d'entre vous pour faire marcher la machine. Les autres, on va pas les exécuter. On va pas les mettre en prison. Simplement, conformez-vous. Conformez-vous. Voilà. Et tout ira bien.
Vous croyez que c'est une mathématique aussi implacable?
Je ne dis pas qu'elle va avoir lieu. Je dis qu'un certain nombre de gens, oui, pensent sincèrement cela.
Et que la lubrification de nos... Évidemment, je le dis avec le sourire, mais de nos malaises est la solution aujourd'hui. C'est-à-dire que...
Elle n'est pas la solution. Elle est, attention, surtout pas.
Elle non, est... de ceux, de, ou pour ceux qui sont en
malade. Voilà, pas, c'est, pour moi, c'est plutôt le cauchemar. Mais c'est la solution d'un certain nombre de gestionnaires mondiaux qui pensent que ça passe par là. Comme ça, pas de problème, pas de vagues, le moins de vagues possible en tout cas, et puis on va s'en sortir.
Alors c'est, à la rigueur, une forme de mépris encore plus odieuse que le mépris qui s'assume et qui s'affiche.
Écoutez, je vous dis, avant nous avions le mépris de gravier, aujourd'hui nous avons le mépris vaseline. Disons que la nature est la même, le degré a changé.
Alors revenons à cette division du monde. On a un clergé qu'on arrive à comprendre. Avec, diriez-vous, dans nos démocraties, je fais attention en disant avancées, que... il y a vraiment des liens incestueux entre les classes médiatiques et politiques.
Je pense qu'ils existent. Alors, encore une fois, ne généralisons jamais, je déteste les généralisations. Oui, oui, bien sûr. Mais bien sûr, à partir du moment où, par exemple, je passe mon temps avec telle ou telle politique. Et vous savez, quelquefois, ce n'est même pas, je dirais, cynique, ou c'est même pas malveillant. Mais quand je connais quelqu'un, bien, mais vous savez, c'est la nature humaine. Je ferai peut-être la même chose. Je rencontre quelqu'un, mais il est sympathique. Je déjeune avec lui, je dîne avec lui, me présente sa femme, ses enfants. On se revoit, on passe un week-end, on passe dans l'avion quand il va vers telle ou telle mission et me dit venez. Je ne vais pas l'attaquer de la même façon, évidemment, en disant oui, d'accord, là ça va pas, mais quand même, il a des qualités. C'est normal. Vous savez, je vais vous raconter, parce que j'ai une anecdote qui m'a toujours frappé il y a très longtemps. Je sais pas si vous Ralph Nader, vous savez, le fameux avocat de General Motors qui avait effectivement.
L'histoire des ceintures de sécurité.
Voilà, c'est lui, et qui avait renvoyé 400 000 voitures dans General Motors. Je vous raconte ça parce que ça m'a frappé. Il y a 25 ans, il était venu à Lyon, je l'avais interviewé. Donner une conférence et il m'a dit voilà, et il a eu, vous savez, on a tout essayé de le faire, le menacé de mort, lui a fait des procès incroyables qu'il a gagné. Donc, il me racontait ce qu'il faisait. Il dit, ah, vous savez, l'autre fois, à New York, j'ai rencontré le PDG de la General Motors qui m'a invité à dîner. Et moi, en bon journaliste français, je lui dis, ah bon, et comment s'est passé le dîner? Il me dit, je suis pas allé. Je dis, pourquoi vous n'êtes pas allé? Attends, vous n'êtes pas allé. Attendez, vous avez gagné votre procès, vous avez tout gagné. Vous êtes Ralph Nader, le mec qui a mis à genoux la General Motors. Et il m'a dit ce que je viens de vous dire. Il m'a dit, oui, je sais, mais je serais allé chez lui. Il m'aurait pas invité sa femme, ses enfants, on aurait bien dîné. Et après, si j'ai quelque chose à faire contre la General Motors, je sais, j'aurai des scrupules à dire oui, je ne sais pas que je ne l'attaquerai pas, mais quand même. Donc, pour répondre un peu longuement à votre question, se vivre ensemble, alors je ne dis pas qu'il faut voir personne, qu'il faut parler avec personne, mais c'est très attention, la frontière est très poreuse.
Et en même temps, c'est un des meilleurs moyens de capter chez le politique des choses qu'on ne verrait pas autrement. Franz-Olivier Gisbert a passé sa vie, comme d'autres,
je ne veux pas le montrer, lui particulièrement.
Mais dans l'intimité de ses politiques, en a extrait des confessions remarquables.
Tout à fait, c'est vrai.
Et l'histoire, je pense, sera reconnaissante de ce qu'il ait eu accès à ce matériel, mais en même temps, il y a ce risque de se compromettre.
C'est sûr. Et puis, je vais vous dire, mais c'est comme Davé et l'homme. Mais je trouve que Davé et l'homme, les journalistes du Monde, ce qu'ils ont fait avec Hollande, un président ne devrait pas dire ça, c'est encore plus fort, parce que quand ils se livrent comme... Je ne dis pas, encore une fois, vous avez raison de rappeler ça, il ne s'agit pas de ne pas les fréquenter. Il s'agit de savoir, de garder ses distances. Un Gisbert, il garde ses distances. Un Davé et l'homme, les Davé et l'homme gardent leurs distances. Mais il faut faire très attention.
Mais je pense à vos années de proximité avec Mitterrand.
Oui.
Et je me dis comment on arbitre nécessairement ce qui est une admiration, peut-être même une amitié, et aussi une occasion formidable d'affaires. Avoir accès au président, ça se monnaie sur le marché.
Non, je ne suis pas. Enfin, moi, je n'ai pas eu l'occasion.
Non, mais comme journaliste, c'est un
privilège. Je comprends. Oui, vous avez raison. Non, mais vous savez, d'abord, je n'ai pas été ni ami ni proche de Mitterrand. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, bien sûr. J'ai admiré l'artiste. J'ai admiré le Frégoli, le Robin Houdin, le Houdini magnifique. Bon, voilà. Et encore une fois, mais même que ce soit Gisbert, Davé et l'homme, si vous ne gardez pas votre distance à un moment donné, vous passez à autre chose. Mais quand je parle de l'entre-soi, il est encore plus subtil. Que ce soit les journalistes dont on parle, ils ne remettent pas en question quand même la légitimité de leur interlocuteur. Or, ne faudrait-il pas, je pose la question, moi je ne l'ai pas fait spécialement, ne faudrait-il pas à un moment donné aller plus loin? Et par exemple, je ne dis pas qu'il avait raison, que Victor Hugo, quand il écrit Napoléon le Petit, mais même Mitterrand, par exemple, c'est intéressant, il a écrit le coup d'État permanent contre De Gaulle, qui était extrêmement sévère et je dirais même excessif quand on voit ce qu'a fait Mitterrand par rapport à De Gaulle. Mais voilà. Et or, il a fallu, qui a fait ce pamphlet? C'est Mitterrand et non pas un journaliste. Vous voyez? Donc, il faut savoir, moi je crois que, est-ce qu'on peut arriver, qu'on doit arriver, à la mise en question, si on considère que ce personnage est nocif pour la République ou pour le pouvoir, il faut arriver à l'attaquer de front, quitte à perdre les privilèges qu'on a eus en le fréquentant.
Nécessairement.
Voilà.
Il faut être prêt à tout mettre sur la table.
Voilà. Et c'est tout le problème, jusqu'où on peut aller à mettre... Et chacun fait son curseur. Hein. Moi, je n'ai pas de jugement là-dessus. Chacun fait son curseur. Je ne veux pas accabler tel... Moi, je ne suis pas héros de la résistance, donc je n'ai pas accablé tel ou tel. Mais il est là, le problème. Où on pose donc, pour revenir au clergé, oui, le clergé, on peut le fréquenter. Mais vous savez ce que disait Voltaire, on se salue, mais on ne se parle pas.
Je peux vous poser une question qui peut-être sera personnelle si vous voulez qu'elle le soit, mais sinon, vous pouvez avoir une réponse plus générale, disons.
Oui.
Rapport à l'argent, quand on est journaliste.
Oui.
Et au plaisir que l'argent donne.
Oui.
Déjà, oui.
Oui, c'est vrai. Mais bien sûr.
Continuez.
Allez-y, continuez.
Peut-on faire les mauvais choix parce que on veut avoir une autre vie que celle qu'un journaliste devrait normalement avoir?
Ben, bonne question. Je crois que ça dépend de chacun. Moi, je peux vous dire pour moi, encore une fois, je ne parlais pas pour les autres. Oui, j'aime bien un certain... J'aime pas l'argent, j'aime bien la vie que peut donner un certain nombre de moyens. Je ne me suis, alors je peux vous dire, pas du tout enrichi avec le journalisme, vraiment pas. Je gagne ma vie, ça va, je vais au restaurant, je fais des voyages, mais basta. En revanche, jamais, je peux vous le dire, je n'ai choisi un poste, un choix, un livre, en fonction de l'argent que ça me rapportait. Vraiment. Pas pour jouer les purs et durs, mais j'ai eu peut-être la chance, ou le mérite, ou tout cela, tous les deux à la fois, de pouvoir faire les choses que j'aimais et de gagner ma vie avec. Mais je dis bien de gagner ma vie sans du tout avoir une quelconque richesse ou un quelconque capital.
Mais il faut se méfier.
Ah, il faut tout le temps se méfier. Évidemment, regardez, par exemple, si quelqu'un vient vous dire, écoutez...
Vous avez fréquenté des gens qui en avaient beaucoup de fric.
Bien sûr.
Bernard Tapie.
Oui, mais par exemple, Bernard Tapie, j'ai jamais eu un centime de Bernard Tapie, mais, je peux le dire, j'ai fait un livre avec lui, effectivement, qui gagné. A été un best-seller, et nous avons tous les deux gagné de l'argent là-dessus. Voilà, mais je veux dire, j'ai écrit ce livre avec lui, donc j'ai eu mes droits d'auteur, voilà. Mais en aucun cas, mais Bernard Tapie, en plus, il m'intéressait, il me fascinait, parce que c'est un personnage assez étonnant à sa manière. Vous savez, quand j'ai vu Trump, j'ai pensé à Tapie. Ouais. Trump, c'est un Tapie à la puissance, évidemment, 10 000, parce que c'est autre chose.
Il y a des liens de famille entre les deux personnages?
Je dirais pas ça, parce que Trump vient quand même d'une famille riche. Enfin, son père est déjà promoteur immobilier. Mais Trump est très intéressant et Tapie vient d'une famille très pauvre. Et Tapie, quand même, c'est pas ça. Il a quitté sa zone confort malgré lui quand il a fait de la politique. Il n'aurait pas fait de la politique, il n'aurait pas eu tout ce qu'il a eu. Trump, ce qui me plaît, Trump, c'est qu'il a quitté sa zone de confort. Il aurait pu rester à ses jets privés, multimilliardaire, aller faire 400 maisons un peu partout. Non, il entre en politique. Et il se fait, mais il a gagné, mais après il se fait laminer, il reste mort dans son sang, et puis il ressuscite tel Lazare. Intéressant. Mais Elon Musk m'intéresse beaucoup. Elon Musk, 250 milliards. Alors lui, fille d'une petite famille pauvre d'Afrique du Sud, Asperger, etc., fait PayPal, SpaceX, Tesla et compagnie. Et il dépense 44 milliards pour Twitter, pour acheter X. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de X? Qu'est-ce qu'il a besoin de dépenser 44 milliards là-dessus? Simplement, il en fait un vrai hub de liberté d'expression, en tout cas aujourd'hui. Et ça sort. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, pour résumer ce que je vais vous dire, par rapport à la jambe gauche et à la jambe droite, j'aime beaucoup les gens qui sortent de leur zone de confort. Et
prennent des risques.
Voilà. Et moi, à ma petite mesure, évidemment, ça n'a rien à voir, j'ai essayé à chaque fois de sortir de ma zone de confort.
Parce qu'il y a quelque chose de supérieur quand on pratique ce métier que de gagner sa vie, et qui est peut-être d'être utile.
Absolument, d'être utile et de pouvoir, c'est un privilège, de pouvoir exprimer et transmettre ce qu'on pense. A-t-on raison, on peut se tromper, etc. Mais vous savez, vous parlez de gauche et de droite, mais je dis, mais il y a un seul sens, c'est le bon sens. Il y a ce qu'on appelle le bon sens. C'est pas seulement le bon sens paysan, c'est le bon sens effectivement populaire, mais c'est aussi le bon sens d'un certain nombre de gens formidables. Moi, je ne pose pas le peuple aux élites, c'est complètement imbécile. Il faut des élites. Il y a des élites, mais quelles élites? Des élites par la compétence, les élites par le talent, les élites par le pouvoir, qu'ils soient des hommes d'affaires, qu'ils soient des entrepreneurs, qu'ils soient des écrivains ou des artistes.
Mais c'était le principe de la République. C'était le principe de l'ascenseur républicain, de ce que sur la foi de son talent, sur la foi de sa compétence, on s'élève et on devient une élite pour les bonnes raisons.
Exactement. Voilà. Et ça s'appelle le mérite, la méritocratie. Et la méritocratie, attention, ne dites pas ça, c'est un mot... Oulala, non, on est tous égaux.
Mais ça nous ramène peut-être dans nos catégories à la nouvelle noblesse financiaro-administrative, oui. Où on ne retrouve pas que des méritocrates.
C'est le moins que l'on puisse dire. Alors là, c'est l'ère de l'administration, des formalités, des tableaux Excel, des conseillers, etc. C'est magnifique. Enfin, la France est un exemple frappant, mais ça existe aussi ailleurs, où les gens, voilà, on gonfle le mammouth, on le caresse, on n'essaye pas de le fendiller, et le mammouth gonfle, et vive la paperasse, et vive les formats, et vive, regardez ce qui se passe avec les agriculteurs, regardez ce qui se passe avec les commissions européennes. Attention, il n'y a pas un jour, un midi ou un soir, où je ne vais pas créer une nouvelle loi, un nouveau règlement. Et ces gens-là, qui ne sont ni élus ni rien, eh bien, ils jouissent de ça. l'orgasme du tableau Excel. C'est, voilà, on va tout résoudre avec...
Virtuellement.
Voilà, virtuellement. Voilà, on va... Et oui, mais alors la réalité ne correspond... Ah, écoutez, ne veut pas parler de la réalité. Moi, ce sont mes lunettes qui comptent. Si la réalité ne correspond pas à mes lunettes, ce sont mes lunettes qui ont raison, mon regard qui a raison, et surtout pas la réalité. Voilà, vous avez la noblesse.
Nous avons eu là-dessus une conversation fascinante avec Raphaël Rossello, banquier d'affaires, qui justement s'entête à dire « il faut arrêter de penser que le réel est dans un tableau Excel. Il est ailleurs, il est dans les entreprises, il est là où se construit la vie. »
Bien sûr, et il est là où il y a le rapport de force, le rapport d'énergie, le rapport vital. Bien sûr, mais on n'a pas envie, c'est embêtant, vous comprenez, c'est rugueux tout ça. Donc on préfère avoir...
Tranquille,
voilà.
Si je retiens
la paix du cimetière.
Oui, mais ça, on veut pas trop tôt. Et le tiers état d'aujourd'hui?
Alors lui, ça n'a plus rien à voir avec le tiers état d'hier ou d'avant-hier. Il est fendillé. Allez, ça, ils ont réussi, le clergé, la noblesse, à le fendiller, à le morceler, à le décomposer, à l'archipéliser, comme dit Fourquet, et puis beaucoup d'autres, à le transformer en diverses énergies qui ne savent pas qu'ils sont ensemble. Et je crois, alors je dis pas que c'est fichu, je dis simplement que ce n'est plus du tout, vous voyez, avant, il y avait la classe ouvrière, le prolétariat, hein, c'est pas si vieux tout ça, qu'est-ce que c'est 30 ans dans l'histoire, 40 ans, le parti communiste français qui faisait 20% ou 30%, etc., etc., terminé, ne parlons pas des scores qu'ils font aux élections.
Mais le social a été remplacé par le sociétal.
Voilà, fin de vie, IVG, violence, viol, consentement, etc. Très bien, moi je ne suis pas contre ça. Mais quand on fait de la Constitution une espèce de table d'accueil, une espèce de truc d'accueil pour ça, je ne sais pas si la Constitution a été faite pour ça. Moi je n'ai rien contre tout ça, c'est très bien, vive les avancées, vive tout ça. Mais quand vous voyez le woke d'un côté, la cancel culture de l'autre, qui passe son temps à quoi? À cette formidable avancée masochiste qui consiste à dire « Ah non, 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 il n'y a plus rien. Il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de femme, il n'y a plus de biologie. Même la biologie, dans ces vies, il n'y a plus de croyances. Voilà, notre nouvelle religion, c'est moi. Et moi, je suis unijambiste, amoureux d'une chèvre et décide de me marier avec mon ordinateur. Eh bien, c'est ça, c'est moi. Voilà ma liberté.
Alléluia.
C'est pas beau? Voilà, alléluia.
Mais au sortir de ce constat, qui est peut-être un peu brutal tel que vous le présentez, mais ça participe de la logique de la provocation douce, il y a effectivement, dans ce tiers état, une impression qu'il n'y a aucun ciment et aucune solidarité.
Alors, il faut être plus nuancé que ça. Il y a un ciment et une solidarité qui ne transparaît pas encore à la surface. Je pense qu'elle existe et je ne pense pas que c'est mon optimisme, parce que je suis plutôt optimiste que le contraire. Je pense qu'il y a dans certaines associations, dans les quartiers, dans vous voyez, dans un certain nombre de, voilà, il y a véritablement un certain nombre, pas seulement de professions, mais de réseaux, etc., de formidables potentialités et actées d'entraide, de solidarité, etc. Je pense que tout ça n'est pas mort du tout, mais qu'on a réussi simplement à les fragmenter, à montrer que, attention, il n'y a plus... Voilà, on est chacun dans son coin, et donc, effectivement, vous avez... Le syndicalisme ne joue plus du tout. Le syndicalisme défend les intérêts catégoriels, et ça dit bien intérêts catégoriels. Le problème est qu'il n'y a plus aujourd'hui, en tout cas, elle n'apparaît pas aujourd'hui, de force d'unification. Et c'est tout le problème du tiers-État, effectivement, qui est là, qui n'a pas du tout disparu, il ne s'est pas fondu, il n'a pas été dissous, comme le demandait Bertolt Brecht, dissolver le peuple, là. Non, mais...
Cette chose embêtante.
Voilà, cette chose fâcheuse. Vous voyez, le gouvernement en avait marre, et il dit, mais ça suffit, ce peuple, dans l'air, qu'on dissolve le peuple. Pas par hasard qu'il n'y a plus de référendum en France depuis 2005. Hein. Et attention, attention, surtout ne nous parlez pas de ça. Alors que c'est l'article 3 de la Constitution. Donc, vous avez effectivement des énergies formidables, des envies de solidarité formidables qui existent vraiment. Et puis vous avez effectivement cet individualisme extrêmement cultivé, qui était jusqu'au bout et qui arrivait à cette espèce de formidable pendule woke d'un côté, communautariste de l'autre, parce que il y a les deux. Voilà, j'appartiens à ma communauté, j'appartiens à mon penchant sexuel, j'appartiens à telle ou telle branche binaire, cisgenre, etc. Et voilà.
Mais j'ai posé la question plusieurs fois à mes interlocuteurs qui avaient plus de 20 ans. Et qui donc ne peuvent pas connaître autre chose que le monde dans lequel ils sont. Se peut-il que vous soyez, au sens absolument étymologique du terme, réactionnaire, c'est-à-dire que vous rêviez de restaurer d'anciens systèmes et que vous refusiez la modernité? Peut-être qu'il y a plein de jeunes qui nous écoutent, vous et moi, discourir et qui se disent, ben, les papilles sont un peu dépassés, parce que c'est un monde qui est
effectivement... Je vais vous dire, alors ça,
c'est un monde meilleur.
Alors, je vais vous dire,
Stéphane, le meilleur des mondes, même.
Le piège que nous devons éviter, c'est de catégoriser. Nous, on est les vieux papis et eux, ce sont les jeunes.
Déjà, ouais.
Ça n'existe pas. Il y a des papis qui sont cons, il y a des jeunes qui sont d'une connerie absolument, mais manifeste, essentielle. Moi, j'en ai rien à foutre
abyssal.
De l'âge. Abyssal, absolument. Ça n'a rien à faire, ça. Je n'y crois. Enfin, c'est pas que j'y crois pas. Je connais des... parce que je rencontre évidemment, pas seulement par la radio, mais quand je vais, énormément de jeunes de 20-22 ans qui sont... absolument, je sais pas, c'est pas d'accord avec, mais qui sont effectivement dans une perspective de question et de renversement. Et puis il y a des gens, vous savez, prenez par exemple quelqu'un, un jeune qui est effectivement dans le woke, bon, il est dans son monde. D'autres qui sont dans un autre monde, mettons, qui sont des mélanchonistes, etc. Vous avez énormément de catégories. Et ces catégories cocho, woko, etc. existent bien sûr, mais vous avez énormément de gens. Et justement, ce qui est intéressant, c'est là où on revient, attention à notre biais cognitif médiatique. C'est-à-dire que souvent, on ne voit que ceux qui font parler, qui parlent, vous savez, qui parlent haut, qui sont sonores, je dirais.
Qui occupent l'espace.
Voilà, qui décibèlent. Hein. Et moi, je me vois décibèles en ce miroir. Hein. Donc, ils sont là, ils sont contents, ils gesticulent. Et nous, on se dit, ah oui, ah, voilà, les tendances, c'est là. Bien sûr qu'il y a les tendances, bien sûr, pas.
Mais il y a aussi un monde plus bas ou à basse fréquence,
voilà,
qui n'est pas mené par le bout du nez.
Absolument. Je crois tout à fait, pour avoir discuté vraiment avec des gens de tout acabit, des hommes, des femmes, des filles, des garçons de tout âge, que c'est pas du tout réglé. En tout cas, ce n'est pas en coupe réglée, heureusement.
Alors, cette division du monde entre ce nouveau clergé, cette nouvelle noblesse et ce tiers-État qui se définit différemment, autrement aujourd'hui, cette division du monde annonce-t-elle, comme en d'autres temps, des temps révolutionnaires, avec toujours la crainte de ce qui vient, si on s'intéresse à l'histoire française, vous me voyez arriver, 92, 93, des temps de terreur?
Écoutez, on va, moi je ne m'aviserai pas de faire des prédictions. Je pense en tout cas, parce que vraiment ça, vous savez ce que disait Alphonse Allais, les poubelles sont remplies de tendances prolongées. Donc moi les tendances prolongées, je sais pas. Mais incontestablement, et là je vous rejoins.
Il y a une espèce de sens des
absolument.
Choses.
Absolument. En tout cas, il y a incontestablement des affrontements qui se préparent. Et là. Nous ne sommes plus ni franco-français, ni calado, ni canadien, ni rien. Il faut regarder le monde. On voit très très bien les bouleversements absolument fascinants, peut-être pour le meilleur et pour le pire, on verra, qui sont en train de s'opérer partout. Là, on est obligé d'aller plus loin. Ah, écoutez, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, la guerre, je ne parle pas de la guerre du Proche-Orient, celle-là, ça fait 100 ans que ça dure, et il y a encore pour 100 ans.
Et vous la connaissez bien pour avoir été proche voisin.
Tout à fait. Je connais tous les pays arabes, je parle arabe, donc je suis absolument fasciné toujours par les spécialistes de plateau qui ne connaissent pas un mot d'arabe, qui ne lisent pas et qui viennent. Je dis pas qu'on ne peut pas parler si on ne connaît pas, mais ça m'amuse. C'est comme les généraux de plateau, vous avez vu, en France, c'est magnifique. Nous avons eu les médecins de plateau, les généraux de plateau, les climatologues de plateau, ils sont les mêmes. Enfin, pratiquement, ils changent de livret et puis ils reviennent en disant, ah mais regardez, moi je suis cocher, je suis écuyer, comme chez Molière, hein, ils sont parfaits. Mais La vraie chose, c'est que, attendez, on va pas glisser dans quelque chose qui est revenez au réel. On parlait de la réalité, on parlait de réel. Revenez au réel. C'est quoi le réel? C'est quoi, moi, ce que je veux savoir? Je vais vous donner un exemple parce que je crois que l'exemple est plus fort que un jour, tu sais, quand il y a eu Nord Stream. Le sabotage Nord Stream 2, voilà. Alors tout le monde disait, oui, c'est les Américains, non, les Anglais, non, non, c'est les Russes eux-mêmes, non, c'est les Ukrainiens, non, les Norvégiens, non, ceci, non, cela. Et moi, je me disais, tiens, alors on me dit, mais il faut faire une émission là-dessus. Je disais, oui, mais attends, moi je voulais savoir c'est quoi un gazoduc. Comment ça marche, le gazoduc, et comment on peut saboter un gazoduc.
Je me rappelle de l'émission, je l'ai entendu.
Eh bien, je vais vous dire, j'ai fait 1 200 000 vues sur YouTube, j'ai amené un ingénieur des mines, que personne connaissait, simplement lui, des gazoducs, il en avait construit, il y avait travaillé dessus, et on expliquait comment ça marche. Voilà la mécanique, voilà comment on peut saboter. Je crois qu'il faut revenir à dire, écoutez aux gens, voilà comment ça marche. C'est tout. Après, faites-en ce que vous voulez.
J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde de nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. À la hauteur de vos 83 ans de jeune homme, vivons-nous des temps vraiment formidable. C'est mon impression. Moi, je me suis lamenté longtemps d'avoir loupé la guerre d'Espagne. En fait, ceux qui ont vécu la guerre d'Espagne diront, attention, garnement, c'est pas très sympa ce que tu dis, pour ceux qui l'ont vécu. Mais avoir eu l'impression de manquer le rendez-vous avec l'histoire, ça fait peut-être un peu plus de sens. D'autant que M. Fukuyama nous avait dit, c'est fini, on est arrivé au terminus, tout va bien, il n'y a plus rien à voir. Or, quelle surprise! J'ai la certitude que nous sommes à traverser une époque plus que formidable.
Tout à fait. Moi, je vous rejoins là-dessus complètement. C'est pas ça, c'est que, évidemment, on peut toujours dire, nous avons eu, enfin, moi, je peux vous dire qu'il y avait du haut de mes décennies, on a eu une période d'insouciance formidable. Et non que seulement que je regrette pas, mais je suis ravi, vous savez, d'avoir vécu ces périodes de fête, d'insouciance, on s'en foutait, mai 68, tout ça, c'était politique, comme moi je suis pape. Mai 68 n'a jamais été politique. Il y a que des gens, il y a que des espèces de curés défroqués, du gauchisme ou du trotskisme ou du maoïsme, les pauvres qui vivaient par procuration toutes ces révolutions, qui ont cru ça. Non, c'était une fête. C'était une fête à tous les niveaux, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a eu beaucoup de conneries.
Des bacchanales.
Des bacchanales, absolument. C'est des Dionysos. C'était Dionysos. C'était ça le plus important. Le reste, bon. Et après, ben, les syndicalistes voulaient leurs augmentations, chacun retournait chez soi, etc. Aujourd'hui, c'est ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que, par exemple, la Chine, l'Arabie Saoudite vend du pétrole à la Chine en yuan. Ce qui est très intéressant, c'est que ils disent, ah, peut-être qu'on pourrait sortir du dollar. Vous allez me dire, mais comment? Vous tombez dans l'économisme? Pas du tout. Ce qui est très intéressant de dire, attendez, peut-être qu'il y a une autre manière de voir les choses. Peut-être qu'il y a une autre manière de voir. Et je ne jette pas l'Occident avec l'eau du bain. L'Occident c'est aussi fabuleux. Moi, je suis pas, ah oui, l'Occident, c'est fini. Non, non. Rien n'est fini. C'est du bullshit. Simplement, on voit très bien que, justement, par rapport à ce brave Fukuyama, Huntington était quand même plus clairvoyant avec sa guerre des civilisations ou le choc civilisation. Il y a quelque chose qui est là, et c'est pour ça que quand vous dites ça, oui, moi je crois que le monde s'est remis à bouger comme il n'a pas bougé depuis 80 ans, même peut-être un siècle.
Je peux me permettre de revenir à vos 20 premières années au Liban, parce que c'est toujours un peu escamoté. Vous dites oui, j'ai été au Liban 20 ans.
Même 25 ans, 24 ans, oui, très exactement.
D'abord, vous étiez au paradis à l'époque.
C'est vrai.
Parce que le Liban, c'était le paradis.
Absolument.
Et il est difficile de penser faire le bilan d'une vie sans s'intéresser au socle. Et le socle, c'est 25 ans de votre vie au Liban.
Tout à fait.
Alors, je ne pose pas de questions. Décrivez-moi tout simplement ce que ça représente. Alors, et d'où vous venez?
Beaucoup de chance. D'abord, je viens d'une... Alors, on parlait du multipolaire. Moi, je viens vraiment du multiculturel. Père d'origine russe, français, mère d'origine espagnole, né au Liban, moi-même, puisque mon père a eu un poste à Beyrouth et ma mère venait d'Istanbul et elle est venue à Beyrouth. Ils sont mariés, etc. Bon.
Et la langue maternelle, c'est ?
Le français.
Français.
Ah oui, absolument, le français. Mais très vite, l'anglais et l'arabe, bien sûr, parce que tout Libanais est trilingue. Enfin, toute personne vivant au Liban est trilingue par essence, enfin, ou presque, ou par nécessité. Eh bien, je vais vous dire, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une enfance très heureuse, une adolescence très heureuse, et j'ai commencé le journalisme. À 22 ans, j'étais directeur culturel de L'Orient, qui était le grand quotidien de l'époque. Et pourquoi je vous dis que c'est que j'ai reçu des écrivains, parce que Beyrouth était franchement, par rapport à Paris, ce que était Toulouse, Marseille, tout ça. Quand il y avait des tournées théâtrales, des films, etc., tout le monde venait au Liban. Le Liban était vraiment pas seulement la Suisse, etc. Enfin, il y avait déjà des choses qui n'allaient pas, mais il y avait, c'était le passage obligé de tout un showbiz français. Et puis il y avait le rock'n'roll, il y avait le jazz, il y avait l'Amérique aussi. Mais donc moi, en tant que responsable culturel, j'ai passé 4 jours avec Pierre Brasseur. J'ai passé 15 jours avec Barbara. J'ai passé une semaine avec Jacques Brel. Charles Bois, je l'ai connu, mais plus tard. Mais je veux dire, j'ai passé avec des. J'ai connu Romain Gary. Pourquoi ? Parce que ça ne passait pas par les attachés de presse. Ils venaient là, ils étaient heureux, puis on les sortait, on allait dans Beirut by Night. Et j'ai des souvenirs, honnêtement, extraordinaires avec des gens. Passionnant, mais on n'était pas journaliste écrivain. On était, voilà, on parlait, on buvait des verres, on allait dans tel bar, et on faisait, on restait jusqu'à 4 heures du matin à refaire le monde. Donc j'ai eu cette chance-là. C'est un privilège que j'ai eu. Et puis rencontrer les écrivains palestiniens, les Syriens, les Égyptiens. Beyrouth était, ça aussi très important, le centre culturel du monde arabe. Les écrivains arabes qui pouvaient pas écrire chez eux, qui étaient censurés chez eux, eh bien, venaient à Beyrouth. Beyrouth était très libre. On pouvait accueillir tout le monde. C'est pour ça qu'on l'appelait la Suisse, pas seulement pour les banques, mais aussi pour la liberté de parole et d'expression. On revient à ça. Donc, j'ai eu cette chance pendant 5 ans. Ou 4 ans, de côtoyer, de vivre, d'écrire, de rencontrer ces gens-là. Et ça a été vraiment une grande chance, je trouve. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je ne dis pas que tout était paradisiaque, énergique, mais honnêtement, puis les boîtes de nuit, et puis l'amour, et puis enfin, tout ça. J'ai eu une adolescence et une jeunesse formidables. Et pourquoi j'ai quitté? Pas du tout pour des raisons politiques. Parce que, ah oui, alors, t'as quitté à cause de la guerre? Pas du tout.
Mais non.
Mais je voulais continuer à Paris, parce que j'avais envie d'être à Paris, parce que c'était là où ça se passait aussi.
C'était bien de faire journaliste pour vos parents à l'époque?
C'était très, très mal. Ah, vous pouvez pas savoir, mon cher Stéphane.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Non, mais c'est amusant. Bon, je vais vous dire, je me rappelle d'où j'avais 19 ans, quand mon premier papier sous ma signature paraît à Lorient. Et encore une fois, le quotidien de Beyrouth. Et j'appelle mon père qui travaille à son bureau. Je dis, t'as vu mon papier? T'as vu? Il me dit, espèce de con, t'as pas autre chose à faire? Quand tu mourras de faim et qu'on sera pas là? Voilà, mais oui, parents, sécurité, tout ça. Et je lui dis, le con, c'est toi. Moi, je vais vous dire, à 14-15 ans...
Vous dites ça à votre père,
absolument.
Le con, c'est toi?
Tout à fait. Tout à fait.
Mais déjà, ça dit quelque chose de la famille, c'est-à-dire que votre père était capable de l'encaisser. C'est pas
absolument.
Toutes les familles.
Non, tout à fait. Non, je lui conseille. Ben, il m'aimait beaucoup, je l'aimais beaucoup. Hein. On avait... Vous savez, c'est très simple, les 1er avril au lycée... Après, je peux vous parler dans des heures. On avait fait des trucs le 1er avril et j'avais mis un faux étron sur la chaise du prof. Donc, conseil de discipline, ils appellent mon père et il dit, écoutez, monsieur Berkoff, c'est pas possible, votre fils, là, il a 14 ans, vieux, 14 ans, je sais pas quoi. Il a mis, vous imaginez, un étron, il a fait sauter les pétards dans la classe, c'est pas possible. Et mon père me dit, ah, c'est moi qui ai acheté les étrons. Voilà, c'était ça. En même temps, lui, il était très strict, fonctionnaire, tout ça. Mais voilà, il aimait son fils.
Fonctionnaire de la République.
Fonctionnaire de la République, absolument.
Donc, déçu quand même que vous ayez fait...
Bah, c'est-à-dire, non, il avait peur pour la sécurité. Il a commencé à être fier quand je s'écrivais à l'Express. Et quand tu disais, ah, on a lu le papier de votre fils, avant c'était, ah oui, tu vas finir sous les ponts, tu vas crever de faim, tu vas être un clochard, voilà. Bon, mais ça, c'est les parents.
Est-ce que les pseudos, quand vous avez choisi d'écrire des livres, étaient liés peut-être à ce que vous ne vouliez pas laisser de traces devant vos parents ou jamais?
Non, non, c'était autre chose. Les pseudos, c'était vraiment une intention politique. Caton qui a été... Enfin, vous connaissez. Non, je veux dire, par exemple, je voulais être quoi? L'aristocrate de droite qui voit passer la gauche. J'aurais signé Berkoff, ça n'avait aucun sens. De quoi tu parles? Et là, j'ai fait l'auberge espagnole du fantasme. Tout le monde a cru que c'était un homme politique. Comme j'avais pas mal de
Quand vous signez Caton?
Oui, quand je signe Caton. Et je disais, par exemple, j'avais appris qu'il y avait un dîner avec Raymond Barre, j'étais Zoé Saga à la puissance 10 000, quoi. Vous voyez? Voilà. Et j'avais fait ça, et ça avait marché. J'ai vendu 150 000 en un mois. Parce que je racontais que la gauche allait servir et le capitalisme aussi bien que la droite. Ce qui est arrivé, même mieux.
Sinon mieux, j'allais vous dire.
Sinon mieux, absolument.
Parce qu'on s'en méfiait moins.
Mais oui. Et puis, non, mais... Puis
alors, vous voyez, le lubrifiant, ça a été inventé peut-être par cette gauche.
Mon seul ennemi, c'est la finance. Rappelez-vous Hollande.
Mon seul ennemi, c'est la finance. Ou alors peut-être est-ce un complice qui n'est pas nommé?
Non, mon seul ennemi, c'est la finance. Et puis, il a approché la finance. Il l'a séduite. Elle l'a séduit. Ils se sont paxés. Ils se sont accouplés, ils ont fait un enfant. Et qui est sorti au bout de 9 mois? Le petit Emmanuel Macron, fils naturel de Hollande et de la finance. Voilà, c'est QFD.
Ce qu'il fallait démontrer, ça a été bien démontré. Je reviens sur la jeunesse et les premiers balbutiements. Vous vous voyez comme Rastignac qui monte vers la capitale?
Ah, il y a toujours cette complexe.
Non, mais vous venez pas de la province, vous venez du Liban.
Du Liban, absolument. Non, c'était l'émerveillement de Paris. Je vais vous dire, je lisais énormément. La culture française, c'était vraiment... Je lisais, écoutez, entre 15 et 25 ans, j'ai lu, allez, 4 bouquins par semaine, au moins. J'étais vraiment un lecteur assidu, je suis toujours, mais beaucoup moins. Quand même, je lisais les journaux, que ce soit l'Observateur de l'époque, l'Express. Et quand je suis entré à l'Express, ça a été pour moi... C'est François Giroud qui m'a engagé à l'Express, vous voyez. C'était le niveau, c'était François Giroud, Servant Schreiber, Jean-François Revel, etc., etc. C'est ça qui
vous
était...
Vous étiez intimidé un peu?
J'étais, admiratif, intimidé au début, après non, parce qu'ils étaient assez décontractés. Mais c'était passionnant d'avoir des discussions avec des gens qui étaient, voilà, qui avaient une espèce d'armature et de colonne vertébrale, à la fois intellectuelle et mentale, qui était quand même autre chose que nos petits clowns d'aujourd'hui. Mais on va pas généraliser encore une fois.
Ça serait une erreur. Ouais. J'allais dire admiration, mais respect.
Estime.
Moi, j'allais vous parler d'une autre catégorie d'individus, pour le peuple, parce que c'est un mot que j'aime bien, moi. Il vient d'où? De vos années
Moi, je considère que je suis quelqu'un. C'est pas parce que j'ai réussi, entre guillemets, dans tel ou tel, que je n'appartiens pas. Si vous voulez, en fait, voilà, je n'ai aucun respect pour le statut. Je peux passer 5 heures formidables dans un bistrot avec quelqu'un où je vois qu'il y a une conversation formidable, qu'avec un ministre ou un écrivain, etc., peut-être plus. Donc moi, ce qui compte, le statut, je m'en fous. Je veux dire, la condition, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils ont dans les tripes, voilà. C'est ça. Et quel que soit le statut, la condition, etc.
Quand vous écrivez Le Retour des Peuples, en 2019, on est... Entre les gilets jaunes et les convulsions qui vont suivre avec la COVID, avec l'épidémie, la pandémie.
On est avant, oui, tout à fait.
Entre les deux. Un point de jonction intéressant, une penture entre deux grands moments. Vous êtes surpris par cette belle jacquerie qu'est le mouvement des gilets jaunes?
Oui.
Des peuples, pour vous, il est significatif.
Oui. Totalement, je vais dire que je suis surpris parce que tout le monde pensait, vous savez, on dit, oh, il ne va plus rien se passer, c'est fini. Comme Pierre Vivian son Bonté dans Le Monde qui écrivait avant 68, la France s'ennuie. Et là, on se disait, c'est pas la France s'ennuie. N'oubliez jamais que il faut parler de 68, c'était les 30 Glorieuses. On était en plein développement. Là, aujourd'hui, c'est les 40 piteuses. On va peut-être en sortir, mais pour le moment, c'est les 40 piteuses. Donc oui, j'étais assez frappé par, vous savez, ce mouvement spontané de gens qui sont mis sur les ronds-points. C'est quoi? C'est des gens qui vivaient avec 1 000 euros par mois ou 2 000 euros par mois, et puis aussi des cadres et des gens qui venaient, qui avaient envie de sortir. On revient à ce que vous disiez par rapport à la personne qui vous disait la réalité n'est pas un tableau Excel. La réalité, c'est les gens qui se rencontrent, qui parlent, qui se voient et vivent la technologie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Faut pas hiberner dans un igloo.
J'ai constaté en me préparant un peu pour notre conversation, et c'est souvent répété d'ailleurs dans des entretiens que vous avez, que récemment, il y a plusieurs portraits à charge qui ont été faits de vous dans Libération ou ailleurs, avec toujours à peu près les mêmes éléments au dossier, les mêmes trucs. On parle à un moment donné, ça me fait bien rigoler, de ce que vous auriez emprunté des sentiers de la perdition ou les sentiers de la perdition.
Oh là là, je me repens. C'est mon faute, c'est mon très grand Faust.
Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette volonté de disqualification? Parce que j'accepte qu'on puisse ne pas vous aimer, qu'on puisse trouver votre parole mauvaise ou mal avisée, mais cette idée vraiment de... d'instruire l'affaire.
Vous savez, on avait parlé au début, clergé, inquisition, Torquemada de sous-préfecture, qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Quand j'ai la paresse, parlons pas de Torquemada, on n'en est pas là, heureusement, mais quand on veut disqualifier quelqu'un et qu'on n'a pas les moyens de le faire par l'argumentation, ni par le débat, ni par le raisonnement, eh ben on lui colle l'étiquette. Ce qu'on appelle le sceau de l'infamie, entre guillemets. Mais très sincèrement, elle ne pouvait pas savoir à quel point je m'en fous complètement. Vraiment. Que ce soit de X ou de Y ou de Z. Et évidemment, c'est, vous savez, c'est le truc facile. Je ne veux pas lui parler. Ah oui, mais lui, il est d'extrême droite. Ou lui, il est d'extrême gauche. Ou lui, c'est un facho. Vous savez, c'est Staline qui disait, si quelqu'un vous embête dans l'argumentation, il a une argumentation qui vous gêne, traitez-le de facho, il va passer une demi-heure à se défendre. Voilà, c'est le truc classique, encore une fois, ils n'ont rien inventé, mais ça les occupe. Ça les fait exister.
Mais vous imaginez si 40 ans plus tôt, on vous avait fait les mêmes procès, ou 50 ans plus tôt, la difficulté.
Mais 50
Parce que
ans
votre
plus
audace
tôt,
aujourd'hui, elle est aussi proportionnelle à votre indépendance, à votre autonomie.
Mais 50 ans plus tôt, on me foutait en prison, peut-être que ça peut arriver. Et encore en prison, je dis pas pour pas parler de camp, etc. Vous savez, c'est chaque époque a son. Je trouve que cette époque, pour moi, je dirais que je suis beaucoup moins préoccupé par ces espèces de petits lancers de boules puantes que par la médiocrité. Moi, ce qui me gêne vraiment, c'est la médiocrité, la petitesse, le côté ras des pâquerettes, le côté...
Sans ambition.
Voilà, sans ambition, mais même sans hauteur, sans vouloir aller un peu plus loin.
Pour moi, c'est ça l'ambition, d'ailleurs.
Ouais,
je la souhaite, une aspiration à monter.
Voilà, exactement. Exactement. Donc moi, je crois que l'un de nos gros soucis aujourd'hui, c'est ça, c'est cette médiocrité. Regardez les débats, savoir si Aya Nakamura va chanter ou pas aux Jeux Olympiques devient le sujet du moment. D'évoquer aujourd'hui la guerre d'Espagne et Daladier Chamberlain, incapable d'inventer et de connaître et de prendre le temps de parler de 2024. On se fait les schémas, la réduction ad Hitlerum, et on se fait 1940. Regardez, c'est moi qui dis ça, qui devrait être dans la réduction ad Hitlerum et le passé. Je trouve ça tellement minable. Enfin, on est en 2024. Raisonnons par rapport aux rapports de force aujourd'hui, qu'ils soient mondiaux, géopolitiques et autres. Mais qu'est-ce que c'est que ces saints? Pourquoi? Mais je vous dis pourquoi? Parce que les gens qui leur écrivent les textes et les éléments de langage, c'est magnifique. Allez, mets-moi un peu de collabo. Allez, mets-moi un peu de Pétain, là. Non, mets-moi un peu de Pétain, ça va marcher. Mets-moi un peu d'Hitler. Hitler, c'est bien, ça a marché. Voilà. Ça occupe.
Donc, c'est les éléments de langage tels que préparés par les communicants sur les fiches qu'on met à ceux qui nous disent spontanément ces choses.
Bien sûr. Très spontanément.
Alors, la spontanéité nous a bien servi aujourd'hui. Ça a été un plaisir, un bonheur que de passer cette heure en votre compagnie. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on aurait dû parler que j'ai oublié?
Ah, ça, c'est la question. Non, je crois pas. Vous savez, je veux dire, moi, je suis ravi d'avoir fait cette conversation avec vous. Je crois qu'au contraire, c'était stimulant. Et je dirais que, vous savez, on a toujours des tas d'oublis. Ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus intéressant que les oublis, c'est d'avoir été sincère et d'avoir essayé d'être cohérent. Je crois que c'est ça qui compte.
Vous avez assez bien réussi en 60 quelques années de métier. Merci de nous avoir aussi fait voyager un peu, retournant au Liban, ce Liban que nous fantasmons aujourd'hui, puisqu'il n'est pas exactement le pays que vous avez connu. André Berkoff, merci beaucoup. À la maison, si ça vous
merci
a plu,
vous.
S'il vous plaît, partagez cet épisode, parce que c'est comme ça qu'on a, nous, du succès. Abonnez-vous à la chaîne, ça compte. On est disponible sur toutes les plateformes. L'émission est réalisée par Jeanne Croteau. C'est Marianne Grenon qui est à la recherche. Stéphane Bureau au microphone, et encore une fois, Monsieur Berkov, à la prochaine.
À la prochaine.